C'est la doctrine de l'Écriture sainte. Et c'est par là qu'on commencera en fin de compte. Juste avant d'entrer dans le sujet, peut-être une petite bibliographie sommaire. Le livre classique sur la question d'inspiration, c'est le bouquin de Pache, L'inspiration, l'autorité de l'Écriture. Bon, il y a beaucoup de bonnes choses. Il donne en gros la doctrine évangélique classique. Néanmoins, il a une vision un peu figée de l'écriture, de l'inspiration de l'écriture, essentiellement parce que René Pache n'est pas un charismatique, et par conséquent, il manque toute la dimension charismatique pour pouvoir approcher le problème de l'inspiration de l'écriture. Ceci dit, avec ces réserves-là prêtes, n'est-ce pas, je crois qu'en gros, c'est un bouquin qui donne un exposé assez complet de la doctrine évangélique de l'inspiration de l'écriture. Il n'est pas toujours facile à lire, mais enfin, les moyens. En dehors de cela, il n'y a pas grand-chose de bien. Pour une bonne et simple raison, c'est que la doctrine de l'inspiration de l'écriture aujourd'hui est une des doctrines qui est les plus battues en brèche. C'est pourquoi c'est une des doctrines essentielles. Finalement, quand on discute avec des membres d'autres familles du christianisme, en particulier tant catholiques que protestantes, et lorsque naissent des désaccords, c'est 90 fois sur 100 parce que l'interlocuteur n'a plus la foi dans l'inspiration de l'Écriture. C'est dire si nous avons affaire ici à une doctrine vraiment essentielle, une doctrine de base. Finalement, c'est cette doctrine de l'inhérence scripturaire, comme on l'appelle, qui a été une des bases fondamentales de la Réforme. Puis, c'est cette doctrine qui a été la pierre angulaire des mouvements évangéliques, en sorte que ce qui faisait jusqu'à ces dernières années la grande différence entre évangéliques, par exemple, et réformés et luthériens de l'autre, c'était précisément que les premiers avaient foi dans l'inhérence, donc dans l'autorité de l'Écriture, et que les autres n'avaient en fait plus de doctrine de l'Écriture. Nous avons vu notamment cela avec Barthes, quand nous avons étudié la théologie protestante. Depuis quelques années, disons en gros une dizaine d'années à peine, les milieux évangéliques à leur tour sont touchés par cette espèce de doute qu'il y a aujourd'hui d'une manière quasi généralisée dans le monde chrétien sur l'autorité de l'Écriture sainte, sur son inhérence et sur la vérité qu'elle contient. Bien sûr, dans les milieux évangéliques, on ne va pas aussi loin que dans les autres milieux, mais néanmoins, ça et là, il y a des attaques certaines sur l'autorité de l'Écriture. Je crois que cela vient essentiellement des facultés de théologie dites évangéliques qui se sont créées dans les années 60 et qui, finalement, ont refait les mêmes démarches que les libéraux du passé, c'est-à-dire se sont mis à douter à leur tour de la doctrine de l'Écriture sainte. Je crois que cela est dû essentiellement au fait que le système des facultés de théologie en lui-même distille le doute, parce que précisément, il est basé, comme nous l'avons vu, sur une approche philosophico-théologique des choses. Et des facultés comme par exemple Röchlikon, séminaire baptiste européen qu'on trouve en Suisse. Plus près de nous, la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, en France. Jusqu'à un certain point, la faculté réformée évangélique d'Aix-en-Provence. Le London Bible College, qui se trouve à Londres, comme son nom l'indique, sont des endroits où, depuis bon nombre d'années, depuis un certain nombre d'années en tout cas, on s'est mis à douter de l'inspiration plénière de l'Écriture. Et depuis quelques années, le monde évangélique est en pleine dérive doctrinale et morale, parce que les choses vont de pair, tout simplement parce que l'on a douté de l'inspiration de l'Écriture sainte. Et tout ce courant que nous évoquons depuis un certain temps, qui culmine avec les fameux clowns chrétiens et les choses semblables, a son point de départ dans le doute, justement, qui est né dans ces milieux au sujet de l'inspiration de l'Écriture. En France, le professeur Henri Blocher est un des principaux promoteurs, si je peux dire, de cette tendance qu'on pourrait qualifier de néolibérale à l'intérieur du monde évangélique, bien que ça fasse... C'est presque une contradiction dans les termes, mais hélas, j'ai obligé de constater qu'il en est ainsi. Le doute sur l'inhérence de l'Écriture a des conséquences extrêmement graves sur le plan évidemment de l'Église, parce que si l'on ne sait plus ce que l'on croit, si on n'a plus confiance dans l'autorité de la Bible, eh bien on sape l'autorité de la Bible. Par conséquent, la Bible n'est plus la référence, elle n'est plus la norme. Et qu'est-ce qui est la norme, si ce n'est plus la Bible? Les catholiques ont leur tradition. En principe, les protestants n'en ont pas. Quelle va donc être la norme qui va se substituer à la Bible? La philosophie du monde. Ce que Paul appellera les rudiments du monde. La dérive a commencé par de petites choses. D'abord, de la confrontation entre les données bibliques et puis les données de la science, notamment tout ce qui concerne la création, les 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est toujours là que ça part, c'est toujours de là que ça part. Et dans les milieux évangéliques, suivant cela d'ailleurs un certain nombre de libéraux que les professeurs évangéliques fréquentaient, parce qu'il y avait échange, il y avait contact entre théologiens évangéliques et théologiens libéraux, réformés luthériens, si bien que petit à petit une influence s'est exercée les théologiens libéraux sur les théologiens évangéliques qui ont laissé pénétrer en eux le doute qui était celui des théologiens libéraux. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, la Bible est vraie, totalement vraie, lorsqu'il s'agit des vérités spirituelles et religieuses. Mais lorsqu'il s'agit des réalités qui touchent au monde, physique, du monde matériel, il se peut qu'il puisse y avoir des erreurs. La Bible n'est pas infaillible dans ce domaine, ce n'est pas son but, ce n'est pas son objet de nous rendre compte d'un certain nombre de réalités scientifiques et à la limite, sur la manière dont le monde a été créé, la Bible n'a rien à nous dire. Pourquoi n'accepterions-nous pas, par exemple, la doctrine de l'évolution pour rendre compte de l'apparition des espèces vivantes sur la Terre? C'est à peu de choses près ce qu'Henri Blocher écrivait dans un certain nombre d'années, il y a un certain nombre d'années, dans un livre intitulé
Révélation des origines.
Révélation des origines, exactement. Alors, on pensait, ce faisant, que l'on avait préservé l'essentiel, c'est-à-dire l'autorité de la Bible. Mais c'est comme la maille d'un tricot. Il suffit qu'il y en ait une qui parte, et finalement, tout le reste suit. Il n'y a pas de raison de s'arrêter en chemin. Alors, nos braves théologiens se sont posé la question en disant, mais alors pourquoi la Bible nous parle-t-elle de la côte d'Adam, etc., chose que l'esprit scientifique moderne ne peut absolument pas accepter. Parce que, répond-il, la Bible employait les images de son temps, tenant compte des représentations cosmogoniques et pseudo-scientifiques des peuples au sein desquels elle a pris naissance. Seulement, quand on pose ça comme base, ça va très loin. Parce que, on dit, bon, sur le plan de la science, la Bible employait les éléments culturels de son temps. La Bible était insérée dans une culture qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Par conséquent, nous ne pouvons plus rendre compte, nous, aujourd'hui, au XXe siècle, des mêmes événements, de la même manière. Seulement, si nous posons cela comme base, il n'y a pas de raison de s'arrêter simplement aux questions scientifiques. Ça veut dire que, quand Paul, par exemple, nous parle de la tenue de la femme, des cheveux longs et des choses semblables, c'était aussi dans un contexte culturel qui n'est plus le nôtre. Donc, deuxième pas, des éléments de ce type ne sont pas valables pour les chrétiens de tous les lieux et de tous les temps, et en fin de compte ne sont pas inspirés. Paul n'était pas inspiré quand il écrivait cela, parce qu'il l'écrivait dans le contexte culturel de son temps. Et l'on a vu en l'espace de quelques années, dans la plupart des églises évangéliques, cette pratique qui jusqu'alors avait été normale, être quasiment abandonnée par l'ensemble du monde évangélique. Pratiquement l'ensemble du monde évangélique. Alors on aura pu dire, mais c'est un détail, mais c'est un détail qui en disait long sur le fait que la foi dans l'inspiration de l'Écriture était sapée. Mais de fil en aiguille, on est allé encore plus loin, puisque Paul écrivait, en ce qui concernait ses détails vestimentaires, conformément à la culture de son temps. En ce qui concerne le mariage, par exemple, c'était aussi en fonction de la culture du temps que Jésus parlait. Par conséquent, nous, aujourd'hui, nous sommes fondés de penser que, étant donné que nous sommes dans une culture qui a évolué, au sein de mœurs qui ont évolué, qu'on puisse envisager, par exemple, le remariage des divorcés. Mais la Bible condamne, dira-t-on. Oui, parce qu'à l'époque, enfin, les éléments culturels faisaient que, à cette époque-là, c'était valable. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une autre culture, par conséquent, le remariage des divorcés est légitime. Et on pourrait multiplier les exemples du même type, pour montrer que finalement on arrive à vider la Bible de sa substance. Et c'est pourquoi nous touchons ici à une doctrine essentielle. C'est la pierre de touche, la pierre angulaire de toute foi biblique et de tout système doctrinal. Si nous doutons de l'inspiration verbale et plénière de l'Écriture sainte, alors automatiquement, il y aura naufrage, non seulement quant à ce que nous croyons, mais également en ce que nous pratiquerons. Une foi erronée conduit à une pratique erronée. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une doctrine solide. Certains disent, eh bien, c'est... Et aujourd'hui, il y a aussi cela dans les milieux évangéliques, n'est-ce pas ? Il est de bon ton de mépriser la doctrine. En disant, ben, ce qui est important, c'est pas tellement ce que le catéchisme, etc., les dogmes, mais c'est la pratique. Seulement, si nous n'avons pas une doctrine juste, nous n'aurons pas non plus une vie et une pratique juste. C'est pas possible. Et les quelques exemples que je viens de donner, et qu'on pourrait multiplier, le montrent abondamment. On pourrait faire la même démonstration pour l'avortement, par exemple. On pourrait faire la même démonstration pour le problème de la polygamie, des choses semblables, dont on reparle aussi dans les milieux évangéliques, aussi étrange que ça puisse paraître. Le mal est profond. Et puis je crois qu'on pourrait même encore aller plus loin et dire que la crise de notre temps, la crise de notre civilisation, la crise des valeurs du monde occidental en particulier, a pour responsable les théologiens qui ont commencé à douter l'Écriture sainte. C'était ce qu'il y a 10-15 ans, affirmait déjà un pasteur danois qui luttait à l'époque contre l'invasion de la pornographie dans son pays, et qui disait « les premiers responsables sont les théologiens ». Et je crois que la crise des valeurs qui est la nôtre aujourd'hui, que ce soit la désespérance généralisée, la soif de matérialisme, le relativisme moral, spirituel qui caractérise notre temps, vient de ce qu'il n'y a plus de référence. En fait, toute notre civilisation occidentale était construite peu ou prou sur la foi en l'inspiration de l'Écriture, qui était celle de la Réforme, bien entendu, mais qui était celle aussi, d'une certaine manière, de l'Église catholique, à laquelle elle ajoutait évidemment tous ses dogmes à elle. Mais les théologiens catholiques avaient foi, d'une manière générale, dans l'inspiration de l'Écriture plénière. Et puis, depuis la fin du siècle dernier, dans les églises réformées luthériennes et dans l'Église catholique, il y a eu crise de foi à ce niveau-là. Et ça s'est répercuté dans la société tout entière. Alors voyez-vous que là, nous touchons vraiment à une doctrine fondamentale. Et je crois qu'on n'insistera jamais assez sur la nécessité d'être extrêmement clair en ce qui concerne la doctrine de l'inspiration de l'Écriture. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, c'est une des questions à laquelle je réfléchis depuis des années et des années, précisément conscient de l'enjeu. Je crois que c'est vraiment sur ce point-là, plus que sur tout autre, qu'il nous faut nous battre. Si nous commençons à lâcher sur même un point qui peut nous sembler secondaire, à terme, c'est fini. Surtout maintenant, avec la pression du monde. Et je disais tout à l'heure, les évangéliques ne sont plus au clair, non plus, sur cette question-là, parce qu'ils se sont laissés gagner par ce qu'il nous faut appeler des esprits d'incrédulité qui sont à l'œuvre dans le monde, des esprits diaboliques qui sont à l'œuvre dans le monde et qui agissent à ce niveau-là. Personnellement, alors que j'étais plus jeune, j'ai eu affaire à ces esprits-là. J'ai connu d'autres jeunes qui ont eu affaire à ces esprits-là. Et nous avons pu identifier ces esprits comme étant réellement des esprits démoniaques. Alors il faut savoir qui est l'ennemi, comment il agit, et comment, comme le dit l'apôtre Paul, il nous est possible de lui résister avec une foi ferme. Avec cette certitude que la Bible est la vérité. Ta parole est la vérité, disait Jésus. Et non seulement ta parole est la vérité, lorsqu'elle nous parle des choses d'en haut, lorsqu'elle nous parle du ciel, lorsqu'elle nous parle des choses spirituelles, mais également, ta parole est la vérité. Lorsqu'elle fait référence à des événements historiques, lorsqu'elle fait référence à des réalités de cette terre, certes, la Bible ne nous dit pas tout, notamment sur ces questions de la terre, scientifiques, etc., c'est vrai. Mais nous devons être profondément persuadés que lorsque la Bible nous parle, par exemple, de la création de choses de ce type, ce que la Bible nous dit est vrai. Et non seulement est vrai, mais peut-être que nous ne pouvons pas le comprendre scientifiquement. Si, eh bien, il nous semble que la science moderne s'oppose à ces choses, ce n'est pas la Bible qui est en défaut, ce sont les scientifiques. Il leur manque un certain nombre de données, tout simplement. Et il ne convient pas d'accommoder les affirmations de l'Écriture à la lumière des affirmations de la science, qui se contredit, qui change constamment. Jésus disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les théories scientifiques, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Il y en aura encore d'autres, si le Seigneur tarde à revenir. Mais la parole du Seigneur ne changera jamais. Comme disait, je ne sais plus quel grand savant, c'était un grand astronome, je crois, ou un savant, peu importe. Il dit, si j'avais à résumer la manière dont la Terre est apparue, je recopierais les deux premiers chapitres de la Genèse. C'est la manière la plus résumée, la plus concise et la plus exacte que l'on ait jamais donnée. Je crois que là, il y a une parole de profonde sagesse. Finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'était celle que posait Pilate lorsque Jésus était traduit devant lui. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question que posent les hommes de ce temps, comme Pilate l'a posée, c'est-à-dire avec dérision, croyant qu'effectivement il n'y a plus de vérité, il n'y a pas de vérité. Mais il est certain que la Bible se pose comme la vérité, et qu'il y a là la pierre de touche de toutes les fois. La Bible elle-même proclame qu'elle est la vérité. La Bible elle-même proclame qu'elle est révélation de la pensée de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit. Et nous trouvons constamment cette référence en un Dieu qui parle. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, nous dit « Après avoir parlé en des temps différents, en des occasions différentes, à nos pères, puis aux prophètes. Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. » Et la grande affirmation de la Bible, c'est que Dieu a parlé. Le Dieu vivant, le Dieu de vérité. Et que la Bible est précisément le recueil de cette parole que le Dieu vivant a adressée à des hommes différents, en différentes occasions, en différentes époques, mais qui finalement forme le tout de ce qui apparaît comme la parole de Dieu. Le monde, nous dit l'apôtre Paul, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Et précisément, la grande différence entre la Bible et les livres saints de l'humanité, ils prennent, les livres hindous, par exemple, Confucius, etc., c'est que ces livres saints sont une tentative pour l'homme de connaître les choses de Dieu. Une tentative des hommes de s'élever jusqu'à Dieu. La Bible, elle, c'est la démarche inverse. C'est Dieu qui descend jusqu'à l'homme pour lui parler. Pour lui révéler ce que sa sagesse ne lui aurait jamais permis de connaître. La Bible reconnaît que l'homme, dans sa sagesse, peut s'élever jusqu'à une certaine connaissance de Dieu, jusqu'à une certaine compréhension de Dieu. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Paul nous dit « Les perfections de Dieu se voient à l'œil nu, quand on les contemple dans la nature. » Ce que Voltaire, douteur par excellence, résumait en disant « Je ne puis concevoir qu'une horloge aussi parfaite n'ait pas été fabriquée par un horloger. » C'est logique. Et bien que cet argument soit aujourd'hui tourné en dérision par les agnostiques et les incroyants de tout poil, n'est-ce pas ? Il est certain que quand on voit l'harmonie de la nature, que quand on voit la finalité qui se trouve en elle, on est obligé de dire qu'il y a une intelligence qui préside à ces choses. Ou bien alors, c'est que la nature elle-même est Dieu, c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même cette intelligence. Ce principe de finalité qui la pousse vers une organisation aussi parfaite, mais à ce moment-là, c'est reculer pour mieux sauter, si j'ose dire. Ou bien alors, et c'est ce que la Bible affirme, et c'est ce que la raison de l'homme, n'est-ce pas, de l'homme sincère, honnête et droit lui montre, c'est qu'il y a au-dessus de toutes ces choses une intelligence extraordinaire qui a conduit l'organisation de la nature à la fois dans l'infini grand, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Tout à fait remarquable de noter que les lois physiques, mathématiques qui régentent l'infiniment grand sont les mêmes que celles qu'on trouve dans l'infiniment petit. Ce qui prouve qu'il y a là, dans toute la nature, une unité d'intention, une unité de pensée, autrement dit un même architecte, pour reprendre l'expression de Voltaire, un même horloger. Par conséquent, l'homme peut arriver à cette conclusion-là par son propre raisonnement, par sa propre sagesse et par sa propre intelligence. Et s'il ne le fait pas, c'est comme le dit l'apôtre Paul, parce que leur intelligence a été obscurcie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Croire, comme l'affirmait Monod dans son fameux bouquin « Le hasard et la nécessité », que l'univers tel qu'il existe est le produit du hasard, n'est-ce pas, et, comme il le dit, de la nécessité, c'est un acte de foi bien plus énorme encore dans le néant, dans le hasard, finalement, que dans le Dieu de la Bible. Le calcul de probabilités exclut toute organisation de ce type. Deuxième possibilité pour l'homme de connaître Dieu, nous dit l'apôtre Paul, toujours dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, c'est dans sa conscience. L'homme a naturellement conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Une notion du bien et du mal qui lui est transcendante, dit l'apôtre Paul, et qu'on retrouve même chez les peuples païens, les plus idolâtres, qui ont été privés de toute révélation autre que justement cette révélation naturelle. Et les hommes, même païens, même pécheurs, sont naturellement portés à louer ce qui est bien et à blâmer ce qui n'est pas. À moins, dit l'apôtre Paul, que leur perversion soit telle que non seulement ils font ces choses, ils font ce que la Bible condamne, qu'il y a un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, que ce Dieu est un Dieu juste, qui ne tient pas le coupable pour innocent, comme dit la Bible, et devant lequel un jour il faudra rendre compte. C'est tout à fait intéressant de voir à ce niveau-là comment les gens qui se disent incroyants, je pense justement à Voltaire ou à Darwin, n'est-ce pas, à l'heure de la mort, sont saisis d'angoisse, d'une angoisse qu'ils ne devraient pas éprouver, si réellement, comme ils le croient, la mort est le néant. Mais l'homme sent alors qu'il va devoir comparaître devant son Créateur et devant son juge, et qu'il va devoir rendre compte. Mais l'homme ne peut aller plus loin dans sa sagesse. Les hommes, dans leur sagesse, n'ont pu connaître Dieu, dit l'apôtre Paul. Et tout ce que les hommes ont pu ajouter à cette révélation naturelle sera immédiatement et automatiquement et obligatoirement idolâtrie. Toute démarche pour connaître Dieu par son propre savoir, sa propre intelligence, aura pour fin l'idolâtrie, c'est-à-dire une conception fausse et erronée de Dieu. Et c'est pourquoi il est logique, il est normal, il est rationnel de s'attendre à ce que ce Dieu, dont les perfections dans l'univers se voient à l'œil nu, et dont la justice apparaît dans la conscience de chaque homme, il est normal, il est rationnel et il est logique qu'on s'attende à ce qu'il se révèle. C'est-à-dire à ce qu'il cherche à entrer en contact avec sa créature. Comme disait Pascal, Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants. Le Deus ex machina qui a donné la chicnode initiale pour que le Big Bang comme disent les astronomes, n'est-ce pas, se mettent en branle et puis ensuite tout se déroule selon un plan qui est programmé comme sur un ordinateur sans que Dieu n'ait plus à intervenir. Non, Dieu n'est pas cela. Et c'est logique de penser qu'il n'est pas cela. Qu'il n'est pas simplement ce principe lointain, étranger à tout ce qui se passe dans le monde, mais qu'il cherche à entrer en contact avec sa créature. Si Dieu est Dieu, il est normal de s'attendre de sa part à cette démarche pour qu'il se fasse connaître à sa créature et cherche à lui révéler sa volonté. Deuxièmement, il est logique, il est normal et il est rationnel de penser qu'une telle révélation doit être écrite. Pourquoi ? Parce que l'écrit est le moyen le plus sûr pour conserver une telle révélation et la transmettre de génération en génération. La mémoire est faillible. La tradition orale, la transmission orale, finit par s'altérer. Seule une révélation écrite permet de conserver au long des siècles une parole que Dieu aurait adressée à sa créature. Troisièmement, il est logique, il est normal et il est rationnel de croire que ce Dieu qui s'est révélé à l'homme, qui a poussé des hommes à écrire ce qu'il leur avait révélé, a également veillé sur cette parole, sur ses écrits, pour qu'ils nous parviennent sans être altérés. Qu'il puisse par conséquent y avoir un miracle de préservation de cette parole, de cet écrit qui apparaît comme le produit de cette révélation de Dieu à l'homme. Et que Dieu a conduit ceux qui voulaient se mettre à l'écoute de cette parole à reconnaître en elle sa voix. C'est-à-dire à former ce que les théologiens appellent le canon d'écriture sainte, sur lequel précisément nous reviendrons. Par conséquent, l'idée d'une révélation écrite, bien loin d'être un acte irrationnel, comme on veut nous le faire à croire aujourd'hui, défiant toute logique, apparaît au contraire comme quelque chose de tout à fait logique et de tout à fait normal. Et finalement, c'est ce que la Bible dit elle-même. La Bible a cette prétention d'être la parole de Dieu révélée. Dieu a parlé, disions-nous tout à l'heure, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et comment Dieu a-t-il parlé ? De deux manières. Dieu a parlé par révélation et Dieu a parlé par ses actes. La révélation biblique est une révélation historique. Ça n'est pas quelque chose de désincarné, mais qui a une histoire. Au commencement, Dieu. Il y a un commencement et il y aura une fin. Une histoire, parce que cela commence avec un homme, Abraham, et que cela culmine avec Jésus-Christ. Il y a une révélation qui est donc progressive. La plénitude de la révélation n'est pas donnée immédiatement, tout de suite. Mais c'est une révélation par étapes, c'est une révélation progressive. Et c'est aussi une des autres caractéristiques de la Bible par rapport à tous les autres livres saints d'humanité. C'est qu'il s'agit d'une révélation qui s'incarne et qui s'inscrit dans une histoire. Le Coran n'est pas historique. Le Coran aurait pu être donné tel quel aujourd'hui, au XXe siècle, sans qu'on en change une virgule. Les livres saints de l'Inde ne sont pas historiques, ils sont mythiques. Les livres saints des païens, des babyloniens, des assyriens, des grecs, sont mythiques. Ils n'ont aucune prétention historique. Il se situe d'emblée dans le domaine du mythe. La Bible, elle, se situe dans la réalité des faits. Et c'est pourquoi il y a une telle importance que la Bible accorde à l'histoire, à l'authenticité des faits historiques. Dès le départ, la Bible se situe comme une histoire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas un élément mythique, mais c'est une réalité historique. Il y a eu un temps où la terre était informe et vide, où elle n'existait pas. Et un temps où tu dis que la lumière soit. Et la terre, le ciel, tout ce qui existe est apparu. C'est un fait historique, c'est une réalité historique, et la Bible le pose comme tel. Dès lors, la Bible est la manifestation de ce que l'on pourrait appeler la geste de Dieu dans l'histoire des hommes. Au sens où on l'employait au Moyen-Âge, vous savez, la chanson de geste, c'est-à-dire à la fois la parole et l'action. D'ailleurs, le mot hébreu « davar », qui signifie « parole », signifie aussi le geste, l'action de Dieu. Dieu se révèle autant par sa parole que par son action dans l'histoire des hommes. Et précisément le rôle des prophètes, qui vont jouer un tel rôle dans la révélation, comme nous allons le voir, c'est non seulement de transmettre la parole de Dieu, mais de mettre en valeur le secret de Dieu, la geste de Dieu qui est caché dans l'histoire, et notamment dans l'histoire du peuple saint, de l'histoire du peuple d'Israël. Et ça aussi, c'est l'objet de la révélation de Dieu. Alors, le problème qui se pose à nous, ou plutôt, avant d'examiner ce problème, il faut le poser. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle prétend? D'abord, nous avons dit, elle se donne comme parole de Dieu. Et elle se donne comme parole de Dieu directement révélée. Les prophètes, par exemple, affirment exprimer ce qu'est la volonté de Dieu. Par conséquent, cette parole se donne comme une parole d'autorité. Elle est reçue par le peuple de Dieu comme une parole d'autorité. Et notamment, elle est confirmée par Jésus-Christ comme une parole d'autorité. Il n'y a absolument aucun doute que Jésus et les prophètes et les apôtres, à l'image des prophètes qui étaient avant eux, croyaient dans l'inspiration totale, plénière et verbale de l'Écriture, de l'Ancien Testament. Jésus, comme les rabbins, comme le peuple d'Israël de son temps, croyait que chaque parole était, comme dira l'apôtre Paul dans le fameux texte de la première à Timothée, n'est-ce pas, toute écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, en grec, est soufflée de Dieu. Et par conséquent, utile pour instruire, pour exhorter, pour corriger. Jésus a employé l'écriture de cette manière-là. Par conséquent, quand nous affirmons que la Bible contient des erreurs, sur tel ou tel point, qu'elle n'est vraie que dans un certain contexte culturel, alors nous sortons de la foi que Jésus avait en ce qui concerne l'Écriture sainte. Nous ne croyons plus ce que croyait Jésus. Nous ne croyons plus ce que croyaient les apôtres. Et par conséquent, affirmer qu'on puisse avoir une foi autre que celle de Jésus et des apôtres à ce niveau-là, c'est affirmer que Jésus et les apôtres se sont trompés. Et il y en a qui vont jusque-là. Jésus partageait les erreurs de son temps, ont écrit certains théologiens, certains exégètes. Alors il ne faut pas s'étonner à ce moment-là, si on ne peut plus avoir la moindre confiance dans les paroles de Jésus. Si Jésus partageait les erreurs de son temps, je ne sais pas moi, sur la valeur à donner à l'Écriture, qu'est-ce qui nous garantit que Jésus ne nous trompe pas et ne se trompe pas quand il nous parle de la mort éternelle, quand il nous parle du royaume quand il nous parle du ciel, finalement quand il nous parle de l'essentiel. Quand les apôtres, si les apôtres partageaient les erreurs de leur temps, qui nous dit qu'ils ne se sont pas trompés quand ils nous parlent de la résurrection de Jésus? Que notre foi est vaine. Qui nous dit qu'ils ne nous ont pas trompés, qu'ils ne se sont pas trompés quand ils nous parlent de la naissance virginale, de l'incarnation, de la filiation divine de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous garantit qu'à ce moment-là que Jésus n'est pas un simple homme? Et que là aussi, eh bien, toutes les affirmations des apôtres sont vaines, nulles et non avenues. Quand on a commencé à douter, encore une fois, c'est comme la maille d'un tricot. On sait où ça part, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est encore comme une digue, vous savez, qui a été entrouverte, il y a une brèche, l'eau commence à suinter, puis soudain, tout est emporté. Et c'est l'inondation, c'est l'invasion de la mer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. Et c'est encore une fois la tragédie du monde chrétien aujourd'hui que nous pouvons constater à ce niveau-là. Maintenant, nous ne voulons pas dire que, quand nous parlons d'inspiration d'écriture, il s'agisse d'un phénomène simple, qu'il n'y ait pas des problèmes. Ces problèmes, il convient de les examiner honnêtement. Et dans la révélation de Dieu, demandant à Dieu de nous conduire, justement, pour comprendre les différents problèmes que peut poser l'inspiration des Écritures. Quand nous disons, une petite remarque tout de suite, quand nous disons que l'Écriture, toute Écriture est inspirée, quand nous disons cela avec l'apôtre Paul, nous entendons par là une inspiration qu'on appelle plénière, c'est-à-dire totale, une inspiration verbale, c'est-à-dire que chaque mot est inspiré par l'Esprit de Dieu, et non pas seulement les pensées, car alors, n'est-ce pas, on pourrait interpréter de manière très vague. Qu'est-ce que c'est les mots, si ce n'est des pensées exprimées? Dieu a inspiré chaque mot, l'Écriture sainte. Nous verrons ce qu'il faut entendre par là. Et troisième nuance, les mots sont pleinement inspirés dans les originaux. Ça, c'est important de les noter, parce que cela signifie que quand nous avons recours à des traductions, les traductions sont des œuvres d'hommes. Les traductions sont approximatives quand on passe d'une langue dans une autre. Et à ce niveau-là, au niveau des traductions, les traducteurs peuvent faire des erreurs. On arrive parfois à des choses absolument aberrantes dans certains milieux évangéliques en son temps, où l'on considérait presque Darby comme la version inspirée. Je regrette. Darby a des qualités, mais c'est une traduction. La traduction n'est pas inspirée. Alors vous allez me dire, mais que faire? Apprendre les langues de la Bible, c'est sûr que ce serait l'idéal. Ce n'est pas à la portée de tout un chacun, et on est bien obligé de recourir à des traductions. Seulement à partir du moment où l'on veut évidemment cerner le texte original au plus près, on est bien obligé d'avoir recours aux originaux. Soit avoir recours à des spécialistes de ces langues anciennes, soit à des ouvrages qui nous permettent de pallier ces lacunes, par exemple un certain nombre de traductions mot à mot, ou bien de concordances à partir des textes originaux, enfin d'ouvrages très spécialisés qui permettent de pallier dans une certaine mesure à la méconnaissance des textes originaux. Quand nous disons que l'Écriture est inspirée dans les textes originaux, nous disons aussi autre chose. Nous disons que nous n'avons aujourd'hui de ces textes originaux que des copies. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui ont copié ces textes n'étaient pas pour autant exempts d'erreurs. Et qu'il a pu y avoir, dans la transmission des textes au long des générations, des erreurs des copistes qui se sont glissées. Et non seulement il a pu y en avoir, mais l'étude scientifique des textes bibliques nous montre qu'il y a eu de semblables erreurs. Maintenant, il faut tout de suite relativiser cette affirmation. qui n'ont aucune incidence sur la doctrine. Enfin, grâce à une étude extrêmement serrée des différents manuscrits, il est très souvent possible de corriger les principales de ces erreurs. Au niveau de l'Ancien Testament, on arrive à une certitude des textes les plus corrompus à 75%. C'est considérable pour des textes aussi anciens. Pour ce qui est du Nouveau Testament, c'est encore plus. On arrive à une certitude d'au moins 99%. Alors vous voyez ce que ça veut dire. Si bien qu'on pouvait affirmer que le texte de la Bible est critiquement parlant, c'est-à-dire justement quant à sa transmission des écrits, le plus sûr qui existe aujourd'hui dans le monde. Aucun texte n'a été transmis avec autant de soin, aucun texte n'a été étudié avec autant de soin, en sorte que on peut corriger les principales des erreurs. Prenons des textes de Virgile, d'Homère, de tout ce que vous voudrez. Nous avons des textes qui sont beaucoup moins sûrs que les textes de la Bible. Vous me direz, l'enjeu n'est pas le même non plus, c'est vrai. Mais il ne viendrait à l'esprit de personne de contester, n'est-ce pas, l'authenticité, par exemple, des textes d'Homère, sous prétexte qu'il y a parfois de tel et tel manuscrit, telle ou telle variante. Pourtant, on le fait pour la Bible. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a un désir de destruction, un désir de saper l'autorité de la parole de Dieu qui existe depuis toujours et qui est inspirée par l'ennemi de nos âmes, en fait, n'est-ce pas ? Quand nous regardons scientifiquement ces argumentations et ces attaques, nous nous rendons compte qu'elles ne tiennent pas. Car, encore une fois, aucun texte actuellement, n'est-ce pas, au monde, notamment aussi ancien, n'est aussi sûr, critiquement parlant. Alors, voilà, si vous voulez, quelques affirmations de base avant que nous n'entrions maintenant dans les problèmes. N'est-ce pas ? Donc, la Bible affirme être la parole de Dieu. Jésus et les apôtres l'ont considéré comme tel. Les chrétiens de l'Église primitive l'ont considéré comme tel. Les chrétiens du premier siècle de l'Église l'ont considéré comme tel. Et les chrétiens de tous les temps, jusqu'à, finalement, il y a 2 siècles, tout au plus, n'est-ce pas, l'ont considéré comme tel. Alors, ça n'est pas parce que des gens considèrent qu'une telle réalité est vérité qu'elle l'est automatiquement. Ce n'est pas parce que la Bible affirme qu'elle est la vérité qu'elle l'est automatiquement. Mais précisément, il s'agit maintenant d'examiner les choses et de dire, eh bien, la Bible est-elle réellement la parole de Dieu comme elle dit l'être ? Et bien précisément, c'est ce que nous allons faire au travers justement de cette doctrine de l'Écriture. Bon, je crois que il faut peut-être nous arrêter à ce stade-là déjà, si vous voulez, et voir s'il n'y a pas des questions. On va entamer la question de l'inspiration et de la révélation. Ah oui, j'avais noté autre chose également, c'est que cette révélation-là est aussi suffisante. Dans ce sens qu'elle n'a pas besoin d'être complétée. À partir du moment où elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ, elle ne nous dit pas tout, certes, mais elle n'a pas besoin d'être complétée par quoi que ce soit, ni par une tradition, ni par d'autres révélations. Bien, alors attaquons, si vous voulez, la question de la révélation et de l'inspiration. Donc, toute écriture est inspirée, nous dit l'apôtre Paul, et ce faisant, il résume en quelques mots des réalités dans lesquelles nous allons entrer maintenant, littéralement soufflé par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait la marque de la Bible, c'est son caractère prophétique. C'est-à-dire le fait, comme le dira l'apôtre Pierre dans son épître, j'ai noté les références quelque part, je vais vous les donner juste. Voilà, alors c'est d'abord 2 Timothée 3, verset 13, « Toute écriture est inspirée », texte bien connu. Pas de Timothée
16.
2 Timothée 3, 16, c'est ça? Ah oui, 13, c'est possible. 3, verset 16, effectivement. Ensuite, nous avons, bon, je citais tout à l'heure Hébreux 1, verset 1. Et puis, nous avons un texte fondamental dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et verset 21, où Pierre nous dit ceci: ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie de l'Écriture a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, nous avons le résumé de la doctrine biblique de l'inspiration d'Écriture. Poussés par l'Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est la définition même du prophète. Des hommes qui parlent de la part de Dieu, poussés qu'ils sont par l'Esprit Saint. Alors, il y a une grande part qui est faite dans l'Écriture à l'action de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est l'agent qui révèle la parole de Dieu et en même temps que l'agent exécuteur de la parole. Il est le véhicule de la parole de Dieu. Job 26, verset 13. En fait, nous pourrions dire que les trois personnes de la divinité sont à l'œuvre dans la révélation. Dieu est le parlant, le Père est le parlant, le Fils est la parole, c'est-à-dire il est à la fois l'objet du discours de Dieu et la fin de ce discours. Et l'Esprit et l'agent est celui qui anime cette parole, qui le souffle, puisque toute écriture est soufflée de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée que nous citions il y a un instant. Bien. Quelles sont les étapes de la révélation ? Donc, à différentes reprises et de différentes manières, à différentes personnes que l'Esprit de Dieu a poussées à parler. Je crois qu'il nous faut faire une distinction tout de suite dans le ministère prophétique, parce qu'il nous faut étudier le ministère prophétique. Toute la Bible est prophétique, nous allons le voir. Ça va être tout notre objet. Il y a différents genres littéraires dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la Torah, les cinq livres de Moïse, les livres historiques, les livres que l'on appelle prophétiques, les livres de la sagesse, psaumes, proverbes, Job, etc. Et on pourrait se demander à première vue quelles sont les relations entre tous ces différents livres. En fait, tous ces livres ont été écrits par des hommes que nous pouvons qualifier de prophètes. Nous allons voir pourquoi. Poussés par l'Esprit. Les évangiles, un homme comme Luc, qui a fait des recherches exactes, dit-il, a été aussi poussé par l'Esprit de Dieu, et en ce sens, il était prophète. Les épîtres de Paul, etc., l'ont été également. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Quel est le mécanisme de l'inspiration prophétique ? Je crois que c'est le premier point, la première question qu'il nous faut élucider. Eh bien, le commencement de la prophétie, l'origine de la prophétie, apparaît dans le livre de l'Exode, en fait, lors de la théophanie du Sinaï, Exode 19 et 20. Et elle apparaît dans la personne de ce que nous appellerons le premier prophète envoyé par Dieu à son peuple, qui est Moïse. Car qu'est-ce que Moïse ? D'abord un prophète. Et non seulement d'abord un prophète, mais le plus grand de tous les prophètes, en dehors de Jean-Baptiste et ensuite de Jésus, si l'on met évidemment bien plus dans la personne de Jésus qu'un prophète. Mais Jésus était aussi un prophète. Parce qu'on disait de lui, un grand prophète a surgi et Dieu a visité son peuple. Nous allons voir aussi dans quelle mesure Jésus était un prophète. Mais Moïse apparaît comme le plus grand des prophètes. Et l'origine de la prophétie israélite est celle-là. Vous vous souvenez que lorsque Dieu rassemble tout son peuple au pied du Sinaï, il se révèle au peuple dans son ensemble. Le peuple aperçoit un spectacle extraordinaire et effrayant. La montagne du Sinaï qui est en feu, des éclairs, du tonnerre, les flammes de feu qui sortent de cette montagne. Et du sein de ce spectacle terrifiant sort une voix, la voix de Dieu qui parle à son peuple. Et tout le peuple entend la voix de Dieu. Là, nous avons l'idéal de la révélation. Dieu aurait voulu intervenir directement, se faire entendre directement, communiquer au peuple d'Israël tout ce qu'il avait à lui communiquer, comme à un ensemble. Le peuple étant assemblé autour de Dieu, qui parle directement, sans intermédiaire. Mais que se passe-t-il? Le peuple dit, ce spectacle, et surtout cette voix, est tellement effrayante à entendre que nous ne pouvons plus le supporter. Si nous continuons à entendre la voix de Dieu, qui nous parle ainsi directement, nous allons mourir. Alors le peuple dit ceci, Moïse, toi, monte sur la montagne, recueille ce que Dieu va te dire, et ensuite viens nous le communiquer. Mais que nous n'entendions plus cette grande voix, c'est trop terrible. Ça, c'est l'institution de la prophétie. La volonté de Dieu serait de parler à l'homme directement sans intermédiaire. Mais parce qu'il est pécheur, parce qu'il est impur, parce qu'il est souillé, l'homme ne peut pas entendre directement la voix de Dieu. Ne peut pas entrer en contact directement avec la révélation. Il faut des intermédiaires. Et ces intermédiaires, ce sont les prophètes. Moïse est le prototype de tous ces prophètes-là. Le ministère prophétique dans la parole de Dieu, je crois que l'heure est passée. Je commence à parler du mystère prophétique, je pense qu'on peut passer la nuit. Alors, je crois qu'on va arrêter simplement sur l'institution de la prophétie au pied du mont Sinaï. On abordera la question du ministère prophétique la prochaine fois, si vous voulez.